Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le film de Vincente Minnelli, un Américain à Paris, est adapté pour la première fois en comédie musicale. Le spectacle se joue en France, au Théâtre du Châtelet, compte rendu et extrait dans un instant avec Stephen Bellery qui était dans la salle hier soir. On poursuivra en musique avec Bernard Lehu qui nous présentera notamment Face B, un livre qui raconte l'histoire des chansons devenues célèbres bien qu'ayant été cachées en Face B des 45 tours. Nous vous l'offrirons au 3210. La nouvelle exposition temporaire du Louvre-Lens est consacrée aux animaux et aux pharaons. Monique Younes l'a visité en compagnie de Jean-Luc Martinez, un directeur heureux. Son musée aura 2 ans demain et il se porte très bien. Et puis ce soir, à la télé, TF1 dégaine la saison 2 de sa série Léo Mattei, Brigade des mineurs, et M6 propose de tester son QI dans l'émission Qu'est-ce que je sais vraiment. On testera tout ça, évidemment, avec Isabelle Moroni-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant toute chose, Anthony Martin, bonjour à vous.
Bonjour Yves.
Vous nous apportez une chanson inédite de Paul McCartney.
Oui, la chanson s'appelle Hope for the Future. Elle est disponible en téléchargement depuis lundi. Et c'est une première pour Paul McCartney qui a écrit ce morceau pour la bande-son d'un jeu vidéo, le jeu Destiny, qui est un des plus populaires. We will build bridges up to the sky. Allez, cadeau, Paul McCartney a choisi RTL pour nous présenter cette nouvelle chanson. Je l'ai joint à Londres.
L'histoire de ce jeu vidéo consiste à préserver la planète et sauver l'espèce humaine. Et il fallait donc parler d'espoir pour le futur. Et je voulais aussi que ce soit une chanson à part entière. Ce qui est intéressant, c'est que toute une génération qui n'écoutait pas ma musique peut l'entendre maintenant. C'est une chanson très épique. La seule expérience du même type que j'avais eue avant, c'était pour Live and Let Die. C'était gros. C'était pour James Bond. Et ça m'a rappelé tout ça.
Est-ce que vous pratiquez les jeux vidéo, Paul McCartney ?
Non, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Et quand je joue, je ne suis pas très bon. J'ai joué, j'ai aimé, mais je me suis fait tuer très vite.
Cette chanson annonce un prochain album ?
Je ne sais pas. Il n'y a rien de prévu. Pour l'instant, c'est juste une chanson.
Vous savez qu'on vous attend en France.
Ce serait chouette, oui. Il se pourrait que je vienne l'année prochaine. On remplit l'agenda en ce moment.
The future.
Oui, vous avez un sacré carnet d'adresses.
C'est un ami, Paul. C'est un ami
oui,
de la
moi
station.
Moi, j'aimerais bien lui parler à Paul McCartney.
C'est pas le mien, c'est l'ami d'RTL, vous savez.
Oui.
Voilà, chanson inédite de Paul McCartney. On retiendra quand même sa phrase, sa réponse. Il se pourrait que je vienne l'année prochaine à propos d'un nouveau concert en France.
Merci beaucoup, Anthony. Il y aura donc peut-être un Anglais à Paris l'an prochain. Mais pour le moment, il y a un Américain à Paris. C'est au Théâtre du Châtelet. C'est la comédie musicale événement de cette fin d'année. C'est la première fois que le film de Vincente Minnelli est porté à la scène. La première mondiale a eu lieu hier soir. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez dans la salle parisienne pour RTL.
Oui, jamais le long métrage de 6 Oscars n'avait été adapté. Le Châtelet s'est lancé ce défi, refaire vivre le film avec Gene Kelly, Leslie Caron et Georges Guettari. D'emblée, on est plongé dans un Paris lumineux, épuré, graphique. Jerry Mulligan, un jeune GI, doit repartir aux États-Unis. Passionné par la peinture, il croise par hasard le regard de Liz, une jeune danseuse. Coup de foudre immédiat.
Problème, Liz n'est pas libre.
Eh non, elle est même à 2 doigts de se fiancer. Et pour ne rien arranger, son ami pianiste est aussi amoureux d'elle. Mais Jerry l'ignore encore et lui déclare sa flamme aux Galeries Lafayette où elle a un petit job. For I've got beginner's luck. The first time that I'm in love with you. Yes, I'm lucky. I've got... Pendant 2h30, on suit ce triangle amoureux entre les quais de Seine, la Concorde, l'Opéra, le tout saupoudré de bourgeoisie, de conservatisme. Le spectacle est plus dense que le film, il dure 40 minutes de plus. L'action a été déplacée à l'après-guerre. Christopher Wildon, chorégraphe et metteur en scène.
Le livret est complètement inédit. On a repris les personnages principaux et la trame du film. On a ajouté quelques personnages secondaires aussi. La ville de Paris a une place vraiment importante dans le spectacle. On entendra la plupart des musiques de film, mais aussi d'autres compositions méconnues de Gershwin. Ce seront des surprises et c'est vraiment sympa.
Ça veut dire qu'on ne retrouve pas le Paris en papier mâché du film de 1951.
Alors pas du tout, aucun classicisme poussiéreux, la scénographie est fluide et moderne. Jamais la scène n'est plongée dans le noir, les décors virevoltent, des panneaux mobiles habillent la scène. Au fond, un écran géant sert de décor, Paris se dessine littéralement au crayon avant de se concrétiser en images. Visuellement, on est parfois dans le Mondrian et les parties dansées se fondent dans des monographies flashy. La danse, acteur majeur de ce musical, véritable langage à elle seule, elle fait avancer l'action. Robert Fairchild, danseur principal au New York City Ballet, joue formidablement le rôle de Jerry Mulligan.
Il y aura des claquettes, du jazz, du ballet. Je crois que cela raconte l'histoire tellement bien. C'est très endurant, dynamique et très fun à la fois. Tous les matins au réveil, je me pince parce que la seule autre personne à avoir joué ce rôle, c'est Gene Kelly. Et je suis le prochain à incarner cette histoire fabuleuse.
Un Américain à Paris à l'affiche du Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 4 janvier, orchestre live en anglais surtitré. C'est exaltant, épatant, vivifiant. Les prix de 25 à 99 euros, le spectacle s'installera au Palace de New York dès le 13 mars.
Mais qu'est-ce que je vais faire à New York à Noël, moi ? Je reste à Paris, c'est trop beau. Merci Stephen Bailly. Ah, les audiences télévisées avec vous, mademoiselle Morini Bosque.
Alors, eh bien, Esprit criminel est en tête. Absolument. Oui, voilà. Esprit criminel est en tête. 6 700 000 personnes ont regardé la série américaine sur TF1, 25% du public global. Fais pas ci, fais pas ça a quasiment son même score que la semaine dernière. 4 900 000 téléspectateurs, 18% du public sur la 2. Et en troisième position, l'inédit de Maison à vendre. 2 800 000 personnes étaient devant Stéphane Plaza sur M6, 11% du public. Côté TNT, c'est le Noël à Disneyland de TMC qui fait la maille. 770 000 téléspectateurs.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
9h11, merci beaucoup d'écouter RTL. Bernard Lehu, on continue donc de garnir votre hôte de Noël. Vous avez choisi deux beaux livres sur la musique. Le premier raconte les plus beaux génériques de films. Vous ne chantez pas.
Non, et je ne chanterai pas, c'est promis. Bon. Et puis alors, comment ne pas commencer pour ce livre sur les plus beaux génériques de films par un hommage à Jacques Demy qui a marié comme personne l'image et le chant.
Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré.
Les demoiselles de Rochefort, bien sûr. Et alors, ce que nous montre ce livre, c'est qu'un bon générique, c'est une musique inoubliable, conjuguée à un graphisme audacieux. Exemple, l'affaire Thomas Crown, avec Faye Dunaway et Steve McQueen, dont les visages, vous en souvenez peut-être, apparaissent à l'écran dans un kaléidoscope de carrés et de rectangles sur la célèbre mélodie de Michel Legrand. Les moulins de mon cœur hein, dans la version française. Et puis alors derrière les génériques de films se cachent de vrais artistes. Ce livre nous les fait découvrir. Par exemple, Daniel Kleinman qui a créé le générique génial du dernier James Bond. Les plus beaux génériques de films, c'est signé Alexandre Tilski, préface de Cédric Clapiche.
On remet tout dans l'ordre. Entre les deux, vous venez faire 50 points au Scrabble, hein, je vous rassure.
Et alors, c'est aux éditions La Martinière et ça coûte 45 euros.
Votre deuxième livre s'intitule Face B et on vous le fera gagner, en tout cas à nos auditeurs.
Oui, alors, il est sous-titré L'histoire de toutes les faces B qui sont devenues célèbres.
Ah, c'est drôle,
à la grande époque des 45 tours, il fallait bien remplir cette face B qui n'était que le faire-valoir de la face A. Mais voilà, ces chansons vouées à l'oubli sont devenues elles aussi des succès ou ont même parfois éclipsé la chanson principale. François Tomaso, l'auteur du livre, nous raconte 180 de ces face B des années 40 à nos jours. Musique, maestro.
Mais boum, quand notre cœur fait boum.
1938, l'un des tubes de Trenet, et ben c'est l'exemple même d'une face B plus célèbre aujourd'hui que la face A, qui s'appelait Vous êtes jolie, on l'a un peu oublié, il faut le dire. Oh oui.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7,
rock around the clock. Eh bien, la chanson qui donne naissance au rock en 1954, on a pourtant failli ne jamais l'entendre. Elle est bâclée en 10 minutes en fin d'enregistrement, mais choisie comme générique du film Graines de violence de Robert Aldrich, elle se hisse en tête du hit parade l'année d'après.
Aux Champs-Élysées.
Ça, c'est la face B du 45 tours, le chemin de papa. Et les Champs-Élysées n'étaient que l'adaptation d'une chanson anglaise passée totalement inaperçue. Bingo, par la magie de la plus célèbre avenue du monde, et bien elle devient le plus grand succès de Jonassin. Alors, c'est par peur de heurter le public que Pour un flirt est mis en face B, sur la face B du 45 tours, en particulier à cause de ces paroles-là. Écoutez.
Pour un petit tour, au petit jour, entre tes draps.
Ben voilà, mai 68 est passé par là, et cette phrase-là, et la chanson Pour un flirt, n'effarouchera plus personne, et ce sera là aussi l'un des grands standards de Michel Delpech. Face B de François Tomaso, ça paraît donc aux éditions hors collection, et ça coûte 16,90€.
Nous vous faisons gagner Face B avec, bien entendu, votre question, Bernard.
Alors, quel est le titre d'une Face B de Joe Dassin, devenu son plus grand succès?
Appelez-nous tout de suite au 3210 si vous avez la réponse, et comme nous sommes généreux, nous ajoutons un exemplaire, attention, annonce importante de face B dans la valise RTL qui sera à gagner cet après-midi dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. Donc, en plus, dans la valise, un exemplaire de face B. Monique.
Oui,
Le Louvre-Lens fête demain ses 2 ans d'existence,
exact,
avec une très belle exposition sur les animaux des pharaons, une approche très ludique et naturaliste de la civilisation égyptienne qui, je suis certain, va attirer les foules à Lens. Mais avant d'en parler, dites-nous comment se porte le musée 2 ans après son ouverture.
Mais comme un lion. Entendez son rugissement jusqu'ici. Alors, depuis son ouverture au public le 12-12-2012, 1,5 million personnes ont visité le Louvre.
Il est enroué, votre
lion. Il est enroué,
oui.
Oui. Raphaël, il est enroué, ce lion. Ben voilà, c'est le lion de Raphaël.
Tyrannosaure.
Voilà.
Alors, 1,5 million personnes ont visité le Louvre Lens, qui devient donc le plus important musée régional français, ce qui rend son président... On s'imagine, hein, Jean-Luc Martinez, mais au-delà de la fierté.
Ça signifie que ce musée a trouvé son public. La moitié de ces 1,5 million visiteurs viennent du Nord-Pas-de-Calais, du bassin minier. Et ça aussi, c'est notre fierté. Des gens qui n'étaient jamais allés au musée sont venus dans ce musée qui est devenu leur musée. C'est le lieu de leur promenade dominicale. Avec fierté, ils font venir leurs cousins, leurs familles. Et puis, le public français, des autres régions de France, et le public étranger redécouvrent la richesse du Nord-Pas-de-Calais grâce à ce musée.
Et que viennent voir les visiteurs?
C'est la Galerie du Temps qui attire le plus de monde. En plus d'être gratuite, elle représente en 200 chefs-d'œuvre un concentré du Louvre et d'une histoire de l'art. Et comme 10% des œuvres exposées sont renouvelées tous les ans, le public revient. Quant aux expositions temporaires, qui sont payantes, elles attirent chacune quelques 100 000 visiteurs. Et avec les animaux et les pharaons, les responsables espèrent bien battre des records de fréquentation.
Ah ben les pharaons, ça marche toujours.
Et les animaux aussi, hein, vous êtes d'accord? Donc les animaux de l'ancienne Égypte, il n'y a pas de raison. Il faut dire que le sujet est éminemment, passionnément riche. L'animal est omniprésent dans la civilisation égyptienne. Il suffit pour s'en convaincre d'aller à Lens. L'art animalier égyptien a produit d'insurpassables chefs-d'œuvre en sculpture comme en peinture. Et très tôt, les Égyptiens ont élevé certains animaux au rang de divinité, comme nous l'explique Hélène Guichard, commissaire de l'exposition.
Le chat, évidemment, c'est un des animaux emblématiques de l'Égypte ancienne. Et finalement, son rapport d'association avec la divinité est assez classique, tout simplement. Les Égyptiens pouvaient observer le spectacle de ces ces chattes extrêmement maternelles qui allaitaient leurs petits, qui protégeaient leurs petits, qui jouaient avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont associé le chat, la chatte tout particulièrement, à la déesse Bastet, qui est précisément cette déesse protectrice du foyer.
Alors les vaches seront associées à la déesse Hathor, la déesse de l'amour, protectrice. Les babouins, au dieu Thoth, qui captent la lumière. C'est pourquoi les Égyptiens les sculptaient au pied des obélisques, dont chacun représente, comme vous le savez, un rayon de soleil pétrifié. Et vous verrez à Lens les quatre babouins monumentaux qui étaient sculptés dans l'obélisque de la place de la Concorde.
Les quatre babouins.
Quatre babouins. Monumentaux. Et qu'on a préféré entreposer au musée du Louvre depuis le 19e siècle pour une raison simple.
En 1836, quand l'obélisque et les babouins sont arrivés à Paris, qu'il devait être érigé place de la Concorde en grande pompe, ce qui a été le cas pour l'obélisque, eh bien les babouins, eux, ont été immédiatement relégués au musée du Louvre parce que leur nudité choquait le public parisien. Il n'était pas question de laisser des babouins dits impudiques, tout nus au milieu de la place de la Concorde, sous les yeux des passants et surtout des passantes.
Combien d'œuvres en tout, Moni ?
442, Yves, et toutes plus fascinantes l'une que les autres, bien évidemment. Merci. Ça va de l'amulette à la momie de crocodile de 2,50 m de long, mais il est sublime ce crocodile, en passant par le célèbre hippopotame bleu. Ces animaux. Ben non, Raphaël, comment ça se fait qu'on n'entend pas le crocodile ?
Il est en chaussures.
Il dort. Ces animaux racontent une partie de l'histoire des pharaons. C'est ludique et instructif. Donc c'est au Louvre Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais, terre natale de notre Miss France de l'année. La belle plante ayant prévu de rendre visite à ses divines et pharaoniques bestioles très prochainement.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h23, la télévision. Nous avons ce soir sur M6 la suite de Qu'est-ce que je sais vraiment ? C'est le test de culture générale que propose M6.
Et qui porte ce soir sur le QI. Non, moi, je me suis testée, ça m'a déprimée.
Ah oui.
Toutes les questions portant sur le français, un charme. Toutes celles portant sur les suites de figures ou de chiffres, un drame. Ce qui me donne à l'arrivée, honnêtement, un QI plus proche du Bulot que de Hugo. Mais c'est pas évident, hein. C'est une bonne émission.
Moi, je me suis laissé surprendre. Alors, on note également.
J'ai pas de bruitage.
Oui, bah non. Sur le Bulot, c'est difficile. On note également le flic Léo Mattei, testé l'an dernier, mais sur TF1 cette fois-ci.
Oui, et donc avec succès, puisqu'il revient, avec une moyenne de 6 millions de fidèles. Alors Léo Mattei, c'est Jean-Luc Reichmann, un grand flic qui dirige la brigade des mineurs. Il a ce soir forte affaire avec Raphaël, un prédateur sexuel qui séduit une collégienne via Internet. Discussion de l'équipe à la machine à café.
T'en es où de ton ratissage sur Internet, toi ?
Toutes les informations que Raphaël a mises sur son site de rencontre sont fausses. Par contre, j'ai récupéré sa photo de profil pour la passer au fichier.
Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, là ?
Ouais, j'ai contacté la brigade Internet. Moi, je me tape pas le Deep Web. C'est trop dégueulasse. C'est le paradis pour les Dixas.
Les Dixas ?
Les sadiques, commandant.
Merci, Clara. Le Deep Web, c'est le bonheur pour eux. C'est Internet sans législation, sans contrôle, et ils peuvent mater des films de gamines en train de... Je peux pas.
Voilà, alors ça se laisse voir comme une BD, Jean-Luc Reichmann a comme on dit quelque chose, mais cet extrait est caractéristique des faiblesses de la série. Petit A, on a l'impression que le chef découvre la pédophilie sur Internet et le vocabulaire Jones allant avec. Or, c'est quand même son quotidien. Quant aux jeunes qui travaillent à la brigade des mineurs mais ne supportent pas de visionner, c'est aussi cohérent qu'un légiste qui supporterait pas la dissection. Quant à la fliquette, on la découvre sidérée de trouver un prédateur sexuel en boîte de nuit. Ah bah oui, là quand même. Et cette fiction a le défaut de tous les polars. Les flics s'expliquent ce qu'ils vont faire. Or, dans la vraie vie, ils expliquent pas, ils le font tout bêtement. Alors, Jean-Luc Reichmann, vous avez rencontré des flics de la brigade au départ ?
Alors, c'est même pas du tout au départ, c'est que je suis en permanence en contact avec eux. C'est vrai que pendant la journée, je tourne les 12 coups de midi, et la nuit, je suis allé avec le commandant Laridan, c'est au 12 quai de Gèvres. C'est la plus grosse cellule de brigade des mineurs de France. Ah non, je suis vraiment parti en solo, justement pour ne commettre aucune erreur, à la fois de langage, de gestes, de port d'armes, parce que j'avais jamais porté une arme. Ils m'ont vraiment ouvert leurs portes. Je me suis aperçu juste une chose qui est importante, c'est quand il y a un problème avec un enfant, tout le monde protège tout le monde. Les copains protègent les copines, les parents protègent les enfants. Les profs protègent bien évidemment les directeurs d'école, les directeurs protègent leur établissement. Je me suis vraiment posé la question, Isabelle, si j'ai un problème avec mon enfant, vers qui je me tourne et comment la brigade des mineurs fonctionne.
Et ils avaient vu le pilote ?
Ils avaient vu bien sûr le pilote. Ils avaient ri à un moment donné parce que comme vous dites, si justement il y avait quelques petites erreurs, il y en a de moins en moins. Donc voilà.
Voilà. Alors moi, ce que j'ai préféré, ce sont les vannes. Mmh. Par exemple, tu connais la différence entre commissariat et un baril de lessive ? Et bien dans la lessive, il y a au moins deux agents actifs. Voilà. Il y en a quatre ou cinq comme ça dans les deux épisodes. Moi, ça m'a ravi. Je précise quand même que c'est un ancien grand flic, Michel Alexandre, qui est à l'origine de la création de la série, puis qui est parti en cours de route.
Et c'est ce soir sur TF1.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Vous aimez la musique et les livres, donc vous aimerez Face B de François Tomaso, qui paraît aux éditions Hors Collection. La question que vous posez, Bernard, était la suivante. Quel est le titre d'une Face B de Joe Dassin qui est devenu son plus grand succès, Bernard?
Eh bien, voici la réponse en musique.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
Vous avez répondu au 32-10 et donc vous avez gagné. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Julien, est-ce que vous tapotez du pied en écoutant Joe Dassin?
Évidemment que je tapote de tout, vous plaisantez. On va même vous le faire en chorale si vous voulez. On peut nous le remettre, oui. Demandez à votre réalisateur.
Champs-Élysées, palapalala, tu prends des PV, palapalala, la Fourrière, c'est hier. Mais je la connais par cœur et je la vis au quotidien.
Il y a Maître de Caumont aussi pour les faire sauter.
Non, pas encore. Aujourd'hui, il y a Maître. Alors, puisque vous parlez de sauter, Maître Novakovic est avec nous. Spécialiste, je le rappelle, dans le droit de la famille et du pénal, la meilleure, et elle vous embrasse.
Ça, c'est une spécialisation.
Vous écoutez RTL.